David, bonjour à tous. 55 classes sont fermées en Deux-Sèvres cette fin de semaine pour cause de Covid, selon les chiffres communiqués par le rectorat hier. On compte plus de 330 classes dans les 4 départements de l'Aix-Poitou-Charentes. 230 élèves et 243 membres du personnel de l'éducation nationale ont été contrôlés positifs lors des 7 derniers jours. Le coup d'envoi hier du grand week-end du SIDAction. Encore 2 jours de sensibilisation et de mobilisation pour récolter des fonds pour la lutte contre le VIH. Pendant 2 ans, à cause du Covid, le SIDAction a dû faire face à une réduction de sa voilure, voire carrément annuler l'édition 2020. Le coronavirus a aussi fait beaucoup de mal aux efforts de prévention. L'un des enjeux de cet événement caritatif ce week-end sera donc de se relancer. Nicolas Tessier est le coordinateur de l'association AIDS en Deux-Sèvres.
On a noté une baisse du nombre de dépistages d'à peu près 14% hein, depuis 2020 et les différents confinements. Il y a toujours en France hein, à peu près 200 000 personnes séropositives au VIH qui l'ignorent parce qu'elles ne vont pas se faire dépister. Du coup, elles peuvent contaminer d'autres personnes. C'est pour ça qu'il y a toujours à peu près 5 à 6 000 nouvelles contaminations par an en France. Donc c'est sûr que si tout le monde se faisait dépister régulièrement, ben, les personnes découvertes séropositives seraient traitées. Et grâce à ces traitements aujourd'hui, les personnes ne sont plus contaminantes et du coup l'épidémie serait enrayée. Les tranches d'âge des nouvelles contaminations, c'est quand même les gens à partir de 45 ans. Souvent on entend dire les jeunes font pas attention, mais c'est plus les générations des personnes qui ont connu les années noires, les années cendres, hein, comme on les appelle, du VIH, qui aujourd'hui ne font pas forcément attention à leur pratique. Et du coup, il y a un regain de contamination chez ces publics-là.
Nicolas Tessier, coordinateur de l'association AIDS des Deux-Sèvres. Le SIDAction 2022 a débuté hier et jusqu'à demain soir afin de collecter, je vous rappelle, des fonds pour la lutte contre le VIH. Les dons peuvent être faits par téléphone en appelant le 110, mais également via Internet à l'adresse sidaction.org ou par SMS en envoyant le mot don au 92 110. 5 euros seront reversés au SIDAction pour chaque SMS envoyé. Les sables du Sahara auront au moins fait quelques heureux, en l'occurrence les propriétaires de stations de lavage qui se frottent les mains actuellement, puisque le nuage de sable oblige quasiment à faire un passage, voire plusieurs, par une station de lavage pour son véhicule. Vincent Nori, qui se prêtait à l'exercice cette semaine, a rencontré Stéphane Carco de l'Oasis Auto à Bressuire.
Depuis mardi dernier, on triple le nombre de lavages par jour.
Et alors en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu de pluie derrière, quoi. Enfin, pour vous, hein.
Ouais, c'est toujours intéressant pour nous. Et là, ça continue encore. Ils n'annoncent pas d'eau avant le 1er avril. Donc automatiquement, les véhicules roulent, la poussière remonte des routes et ressalit les voitures. Donc on va laver 2, 3, 4 fois en fonction des véhicules.
Donc là, je peux quand même laver ma voiture aujourd'hui.
Laver votre voiture, il n'y a pas de souci. De lundi, vous recommencerez.
C'est vrai?
Ouais, je pense, oui.
Par contre, on est bien d'accord qu'il y a un peu le revers de la médaille pour vous, c'est qu'en termes de maintenance, vous êtes aussi au taquet.
Oui, parce que le matériel n'est pas habitué à être sollicité autant que ça, si vous voulez. Donc là, on a un mois de maintenance en une semaine, quoi.
Et en termes de pièces, de rechange, tout ça, il n'y a pas trop de difficultés?
Bah, j'ai du stock, donc avec le stock d'avance, on vient pallier aux pannes, mais faut être actif, quoi.
Et puis sachez que les poussières de sable du Sahara vont refaire le retour en France ce week-end. Le sud du pays sera particulièrement concerné, mais la région de Nouvelle-Aquitaine ne devrait pas être épargnée. Un important dispositif de gendarmes et de CRS déployé actuellement dans le sud de notre département où se déroule, vous le savez, le printemps maraîchain en opposition au projet des bassines. Monsieur Jean-Luc Tarriga, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être en direct avec nous dans cette édition. Vous êtes le directeur de cabinet de Madame la préfète des Deux-Sèvres. Monsieur Tarriga, première question, quelle est la situation à l'heure où nous parlons actuellement ?
Actuellement, la situation est calme. Les manifestants ont commencé à se réunir sur la commune de La Rochénard et d'autres sont attendus d'ici à la fin de matinée et le début d'après-midi.
Ce que veut dire que la première nuit de mobilisation hier a été plutôt calme, donc, hein.
Absolument. La soirée et la nuit ont été calmes, que ce soit sur le site de la manifestation ou sur l'ensemble du secteur.
Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous communiquer en termes du nombre de manifestants justement depuis hier soir, en sachant que bien entendu le pic est attendu pour ce week-end?
Hier soir, de manière approximative, on dénombrait environ 500 personnes sur le site de La Rochénard. ce matin, quelques arrivées qui ont pu, aux alentours de 9h, nous faire approcher les 800 personnes. Et effectivement, comme je le disais, nous attendons plus de personnes qui seront acheminées par bus, notamment d'ici la fin de matinée et début d'après-midi.
Même si, comme tout le monde l'espère, hein, ce rendez-vous, cette opération se déroulera dans le calme, j'imagine que les dispositions ont été prises pour pallier à d'éventuels débordements.
Le dispositif qui est en place, tant du côté de la gendarmerie que des forces de sécurité civile et des pompiers, vise à prévenir effectivement tout débordement, tout trouble à l'ordre public. Et l'objectif premier est évidemment la protection des personnes et des biens.
J'imagine que les points sensibles sont particulièrement surveillés. Je pense notamment donc au bassin de retenue de Mauzé-sur-le-Mignon.
Tout à fait. Les points sensibles font l'objet d'une surveillance renforcée, et ils sont de toute manière intégrés dans un périmètre d'interdiction de manifester qui est délimité par une carte. Je tiens à vous préciser que nous avons eu dans la soirée le résultat du recours qui a été porté contre les arrêtés préfectoraux, et que l'intégralité des recours déposés ont été rejetés par le tribunal administratif. Et donc les arrêtés sont bien en vigueur et s'appliquent aujourd'hui. Et
que va-t-il se passer alors, Monsieur Tarriga, si justement les manifestants passent outre les arrêtés pris par Madame la préfète? Je crois que c'était mardi matin.
Eh bien, s'ils passent outre, ils encourent des verbalisations, et puis le périmètre d'interdiction sera protégé par la gendarmerie. Nous avons prévu, sur le secteur qui n'est pas interdit à la manifestation, de pouvoir encadrer un éventuel cortège qui voudrait circuler sur les lieux.
Dernière question, Monsieur Tarriga. Il y a des dispositifs qui ont également été pris concernant la circulation des usagers dans le sud du département. Ça risque d'être compliqué aujourd'hui.
Absolument, mais ça s'avérait nécessaire au vu de la situation et au vu des débordements qui ont eu lieu, notamment le 6 novembre, puisque nous avons des manifestants qui, à leur propre péril et à ceux des riverains, ont traversé la route nationale, ont traversé la voie ferrée. Et donc nous avons pris ces dispositions en amont pour limiter au maximum les risques. Les informations ont été données sur les sites institutionnels par la voie de bison futé, pardon, pour prévenir les usagers des perturbations que ces mesures de précaution absolument nécessaires occasionnaient.
Monsieur Jean-Luc Tarriga, directeur de cabinet de Madame la préfète des Deux-Sèvres, merci beaucoup, Monsieur Tarriga, d'avoir été avec nous en direct dans cette édition de 10h dans le Colline Info Matin. Merci à vous, bonne journée.
Merci à vous, au revoir.
La suite de cette édition dans le reste de l'actualité entre Niort et Thouars, la guerre des bouchons ce week-end. À Niort, le salon des vins, de la gastronomie et du chocolat est organisé par le Lions Club à Noron, où 70 producteurs espèrent 4000 visiteurs ce samedi et demain dimanche. À Thouars, qui a ouvert son 73e salon hier après-midi, une centaine de producteurs table également sur 4000 entrées. Il y a donc des similitudes, mais Dominique Hérault, notre correspondant dans le Thouarsé, a comparé les deux propositions.
Le salon niortais regroupe 70 producteurs. Thouars fait mieux avec une centaine de viticulteurs et une différence assez nette puisque le salon Thouarsé accueille des vignerons de son propre territoire affiliés à l'appellation Anjou. Autre différence, la durée. Le salon Thouarsé a débuté ce vendredi après-midi et il se poursuit samedi et dimanche. Celui de Niort se limite au samedi et au dimanche. Enfin, ultime distinguo entre les deux, les tarifs. L'entrée est à 3€ à Niort, mais 4€ à Thouars. Pour ce prix, le verre est offert dans les deux cas, mais avec un bonus pour Thouars, un bec verseur en cadeau. Le match est lancé, mais dans les deux cas, c'est d'abord la rencontre des saveurs, de la convivialité et de l'art de vivre qui vont faire cause commune, verre contre verre, à 90 km de distance.
La convivialité, Dominique Hérault, notre correspondant au Orsay, connaît bien le mot. Merci beaucoup, Dominique. Assure également ce week-end le premier festival du voyage à vélo au fauteuil rouge à Bressuire, proposé par l'association Allons à vélo. Aujourd'hui et demain, le cinéma bressuiré projettera en effet des documentaires réalisés aux quatre coins du monde par des passionnés de voyage à vélo, suivis d'échanges avec certains d'entre eux qui seront présents sur place. Toutes les infos et horaires de projection, notamment sur le site du fauteuil rouge.
La Glo du Bocage Bressuré lance en lien avec la Cité de la Jeunesse et des Métiers un concours vidéo.
Destiné aux jeunes de 11 à 30 ans, Roche 24 va leur offrir la possibilité de réaliser en 24 heures, le week-end des 16 et 17 avril, un court-métrage de leur choix, de A à Z, de la scénarisation au tournage, en passant par le montage. Une opération qui s'inscrit pleinement dans la politique jeunesse de la collectivité, confirmation apportée par l'un des vice-présidents de l'Aglo de B, André Guillermic.
Cette Cité de la Jeunesse, on l'a voulu pour les jeunes, mais on voudrait qu'elle soit aussi animée par les jeunes. Et donc, dans cette optique-là, cette animation vise aussi à ce que les jeunes puissent s'emparer de cette Cité de la Jeunesse et puis rayonner sur le territoire surtout.
Comment est née cette initiative? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur?
Disons qu'on s'est aperçu que pas mal de jeunes avaient cette sensibilité-là pour le cinéma. Nous avons un directeur du site qui lui aussi est sensible à cela et qui a pu mener d'autres actions sur d'autres territoires avant d'arriver ici. Donc voilà, l'idée est partie comme ça.
Cet événement cinématographique consiste donc à réaliser un film par équipe de 8 maximum, dont au moins un majeur, en 24 heures, sur un thème tiré au sort le samedi matin du 16 avril, après avoir été briefé la veille au soir, comme nous l'a indiqué Aude Rodriguez Pereira, animatrice référente jeunesse à la Cité des Métiers de la Jeunesse de Bressuire.
Les participants sont invités à venir à la Cité de la Jeunesse et des Métiers le vendredi soir pour avoir un petit peu des informations sur le week-end. Et il y aura aussi des ateliers d'éducation à l'image pour pouvoir leur donner encore plus de conseils et qu'ils soient bien équipés pour pouvoir partir le lendemain. On tire un thème le samedi matin et à partir de ce moment-là, les participants ont 24 heures pour monter, scénariser et créer leur court-métrage. Du coup, ils sont lâchés sur le territoire de l'Aglo avec une petite liste d'endroits qui sont sympas pour tourner des courts-métrages. Pour le matériel, c'est aux participants d'emmener leur matériel et puis nous, il y aura certainement à la Cité de la Jeunesse et des Métiers du matériel de disponible pour que les jeunes puissent l'emprunter. Il faut faire preuve de créativité et puis se démarquer des autres pour pouvoir gagner le prix.
Informations et inscriptions avant le 4 avril auprès de la Cité de la Jeunesse et des Métiers de Bressuire. Sachez que les courts-métrages feront l'objet d'une projection en séance publique au fauteuil rouge dans l'après-midi du 17 avril avant la proclamation du palmarès composé du prix du jury et du prix du public.
L'actualité sportive ce samedi matin, Patrice, et événement tout le week-end, les championnats de France de para-badminton à Neuilly-les-Aubiers.
Le complexe sportif de la Ronde accueille en effet des sportifs de la France entière pour ces championnats de France qui ressemblent à une grande fête de famille. Une excellente ambiance, insufflée notamment par Sandrine Bernard, entraîneur nationale incontournable au milieu des quelques 80 athlètes engagés ce week-end.
L'objectif du France para-bad, c'est d'avoir un partage d'expérience entre ceux qui font du haut niveau et ceux qui débutent l'activité, donc qui sont à la recherche de conseils, qui n'ont pas spécialement toujours dans leur structure, malheureusement, parce que l'encadrement n'est pas toujours encore présent dans toutes nos structures de badminton. Mais ça leur permet d'avoir un vrai partage entre chaque handicap, d'échanger aussi sur des handicaps visibles, non visibles, sur des problématiques liées au fauteuil, sur des problématiques liées aux prothèses. Donc ça reste un grand message aussi humain.
Le para-badminton propose 6 catégories, 7 même, avec les sourds et malentendants. Dans chaque catégorie, 3 tableaux, simple, double et double mixte. Pionnier dans la discipline, David Toupé compte une bonne vingtaine de titres de champion de France et il compte bien en glaner d'autres ce week-end. Il sera d'ailleurs dans le Sport Matin Dimanche demain. Il racontera au micro de Fabien Gazot son aventure olympique avec deux autres Français ayant participé aux Jeux de Tokyo en septembre, à savoir Meryl Roquette et Thomas Jacobs. Des athlètes que vous pouvez aller voir tout ce week-end au complexe sportif de la Ronde. L'entrée qui plus est gratuite et l'ambiance chaleureuse autour des bénévoles du club local présidé par Olivier Dazel.
Alors les finales sont toutes le dimanche. Il y a une vingtaine de finales le dimanche, ça démarre à 9h jusque vers 13h30, 14h. Et après, il y a la remise des prix pendant une heure, la remise des médailles. Et le samedi après-midi, il y a les demi-finales. Et puis, bien sûr, c'est ouvert au public, l'accès est gratuit. Donc n'hésitez pas à venir, vous allez voir, vous allez être très surpris.
Alors on voit beaucoup de bénévoles. Le club en a mobilisé combien là sur ce week-end?
On est plus de 70 bénévoles sur l'ensemble du week-end. Et donc voilà, tous les gens du club se sont mobilisés, plus des gens de la commune, plus quelques personnes qui ne sont pas du département, mais qui sont venues de d'autres clubs nous aider.
Les championnats de France de parabadminton ont lieu donc tout ce week-end à Nueil-les-Aubiers au complexe de la Ronde. L'entrée, je vous le rappelle, est gratuite. En basket, vous avez pu suivre la rencontre hier soir en direct ici même. Pour le compte du championnat élite, Cholet accueillait Limoges. Les Limougeaux privés de 3 joueurs pour cause Covid. Les Choletais ont de nouveau fait un pas important vers le maintien, qui reste l'objectif premier, même si l'on peut s'autoriser aujourd'hui à viser les playoffs avec cette 8e victoire, belle victoire hier soir, sur le score de 78-54. Un succès réalisé grâce à une défense de fer. Le coach Choletais, Laurent Villa, au micro colline de Vincent Laurie.
Oui, on a fait une très bonne défense, très très bonne défense. Et en plus, par moment, on a bien sécurisé le rebond pour courir, jouer notre jeu d'attaque. Il fallait absolument qu'on verrouille de toute façon leur shooter à 3 points et qu'on maîtrise le rebond pour jouer ensuite des phases de jeu avant qu'ils puissent se mettre en place avec leur défense demi-terrain. Donc oui, c'est clair. Et au niveau du résultat, c'est probant, hein, ça parle. Donc c'est très bon.
Après cette victoire hier soir à domicile face à Limoges, 78-54, CB pointe à ce jour au 12e rang du championnat avant un déplacement mardi à Gravelines. Tous les résultats et affiches à suivre pour ce week-end sont à découvrir et à retrouver sur notre site colline-laradio.fr.